Beauté, une émission de Christiane Hervaux sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers amis, chers auditeurs de Radio Alliance Plus. Aujourd'hui, je vous propose de reprendre un enregistrement qui avait été fait lors de la Nuit de l'éthique l'an passé, 17 et 18 juin dernier. Nuit de l'éthique qui avait été mis en place, organisé par l'Église protestante unie de Nîmes et par Olivier Abel, professeur émérite à l'Institut protestant de théologie, tout juste à la retraite depuis justement juillet 2023, et qui nous avait fait le plaisir de programmer donc toute une nuit de réflexion sur des grands thèmes de l'éthique, des plus profonds jusqu'aux plus amples, donc avec Olivier Abel et puis une vingtaine d'intervenants et d'intervenantes de divers métiers, approches et disciplines. Et donc, lors de cette nuit de l'éthique qui a commencé première veille autour de 21h27, coucher du soleil, jusqu'à la fin du bout de la nuit, c'est-à-dire 6h du matin, au lever du soleil, nous avons pu entendre à la maison du protestantisme, donc le 17 et 18 juin, toute cette nuit-là, des conférences, petites conférences, autour de différents thèmes. Et le thème que je vous propose aujourd'hui, c'est la sixième veille qui s'intitulait « Le monde ». Et dans cette veille, il y avait la leçon 16 de Olivier Abel, « Le jeu du monde ». Ensuite, la leçon 17 par Camille Pinchina, « La poétique de l'espace » de Gaston Bachelard. Et la leçon 18 de Didier Travier, « Gunther Anders et le décalage prométhéen entre notre capacité de faire et notre capacité de sentir ». Et c'est cet enregistrement de Didier Travier, cette leçon 18, que je vous propose d'écouter maintenant. Alors, voilà un titre bien étrange, qui est « Gunther Anders ». Qu'est-ce que le décalage prométhéen et que nous propose exactement Didier Travier dans cette leçon 18? Eh bien, vous le saurez en l'écoutant maintenant. Je vous propose sans plus tarder de l'écouter, puis vous aurez un temps musical après l'avoir écouté, qui est un temps musical qui et de Louis Rodet, une des personnes qui était aussi à cette nuit de l'éthique. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse l'écouter. À tout à l'heure, après cette écoute.
J'espère que je ne vais pas trop plomber l'ambiance, parce que le sujet dont je vais parler est grave. Il sera beaucoup moins poétique que celui de Camille, et s'il est question de jeu, ça ne sera pas un jeu très ludique, mais plutôt un jeu au sens où on dit la machine a du jeu, c'est-à-dire que les pignons s'engrènent mal les uns sur les autres.
Ça grince.
La question, je pourrais la formuler de manière très simple en disant: comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé là? Je rebondis sur la leçon de Jacques Varré à propos de la crise écologique. Comment avons-nous pu être à ce point aveugles sur les destructions que nous étions en train de faire à la planète? Et on pourrait ajouter: comment aujourd'hui, où nous savons, sommes-nous malgré tout si timides, si lents à réagir? Et il me semble qu'on peut trouver un élément de réponse à cette question chez un philosophe allemand dont Olivier ignorait que je le connaissais, mais il ne l'ignorait pas sans quelques raisons, c'est parce qu'en fait je le connais très peu, qui est Günther Anders, puisque Günther Anders pose au fond cette même question que je pose à propos de la crise climatique, mais à propos d'un autre objet, un autre objet tout aussi angoissant, et j'ajouterai tout aussi actuel, celui de la bombe atomique. Je fais référence ici à un texte dont le titre est particulièrement clair, sur la bombe et les causes de notre aveuglement face à l'Apocalypse. Et ce texte a été publié donc en 1956 dans le grand livre, très beau livre de Günther Anders qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme ». L'obsolescence de Anders nous dit « La bombe atomique, c'est une évidence, elle nous fait entrer dans une ère absolument inédite et terrifiante, caractérisée par la capacité de l'homme à anéantir l'humanité entière. » Et cette réalité-là devrait nous tétaniser d'angoisse. Or, Anders nous dit, mais finalement, on vit bien avec. On parle beaucoup d'angoisse. L'angoisse est un objet médiatique qui se vend bien. Mais il y a très peu de personnes, dit Anders, que l'angoisse fait parler. On parle de l'angoisse, mais il y a très peu de personnes que l'angoisse fait parler. Et donc, comment est-ce possible? Comment cet aveuglement, pour reprendre le titre du texte, comment cet aveuglement face à l'Apocalypse, possible ou probable, est-il possible? Alors Anders va chercher à répondre à cette question dans une anthropologie philosophique, c'est-à-dire il va se demander ce qu'est l'homme. Alors non pas l'homme avec un grand H, c'est-à-dire l'homme éternel, immuable, qui n'existe pas, non, ce qu'est l'homme moderne, c'est-à-dire l'homme caractérisé par cette extraordinaire puissance technologique, cet homme qu'il appelle donc en référence au héros mythologique, l'homme prométhéen. Et la thèse d'Anders, c'est là où je parlais de jeu, est que l'homme prométhéen se caractérise par un décalage, une asynchronicité, chaque jour croissante, dit Anders, il écrit en 1956, entre lui-même et le monde qu'il produit. L'homme est toujours en retard sur son monde, sur le monde qu'il fabrique grâce à la technique. Il est inadapté face à ses propres réalisations techniques. Et ce décalage, mais je le mentionne juste au passage, parce que ce n'est pas un thème que je vais développer, produit, nous dit Anders, un sentiment étrange qui est un sentiment de honte. L'homme a honte d'être lui-même, il a honte devant les instruments qu'il crée. Nos machines sont tellement plus perfectionnées que nos pauvres corps. Et de cette honte se dit finalement le rêve, qui est le rêve du transhumanisme, de transformer nos corps en machines, d'avoir des corps technologiquement augmentés, qui nous permettrait de rejoindre les machines fabuleuses que nous sommes capables de créer. Alors ce n'est pas ce point que je veux développer, mais un autre, c'est que ce décalage entre l'homme prométhéen, l'homme technologique et le monde technique qu'il produit, procède d'un décalage plus fondamental, qui est un décalage interne à l'homme lui-même, entre ses différentes facultés. C'est là où je parlais de jeu. Il y a un jeu des facultés, c'est-à-dire qu'il y a en l'homme une extraordinaire capacité de faire et il y a une capacité de sentir, une capacité d'imaginer qui n'est pas à la mesure de sa capacité de faire. Et c'est très précisément ce décalage entre les facultés humaines qu'Anders appelle le décalage prométhéen, puisque c'est le décalage qui caractérise l'homme prométhéen, l'homme de l'ère technologique. Il a une formule très saisissante pour dire ça, il dit « L'homme prométhéen, l'homme est plus petit que lui-même. Nous ne sommes pas à la hauteur de nos capacités de faire. » Alors, on peut repérer ce décalage dans trois figures. La première, c'est un décalage entre l'action et la représentation. Notre puissance technique est telle que non seulement nous ne percevons pas tous les effets de ce que nous faisons, puisque une partie de ces effets se produisent à des distances très éloignées dans l'espace ou dans le temps de ce que nous faisons, et donc ça ne tombe pas sous notre perception, mais nous ne sommes pas non plus capables de les imaginer. Nous ne sommes pas capables de les imaginer parce que justement notre puissance d'action est telle que les phénomènes sur lesquels elles agissent sont extrêmement complexes et que nous ne pouvons donc pas entrevoir toutes les conséquences de nos propres actes. Donc il y a de l'imprévisible finalement qui est à proportion de notre capacité de faire, et même quand nous pouvons prévoir, nous ne pouvons pas imaginer au sens où nos prévisions restent des sortes de squelettes théoriques et à qui il manque la chair justement de l'imagination. Quand nous disons par exemple le réchauffement climatique, plus de degrés, alors nous avons effectivement un certain nombre d'idées de ce que ça produit, mais nous n'imaginons pas réellement de manière concrète qu'est-ce que ça signifie dans la vie de milliards d'hommes. Donc ça c'est un premier décalage. L'homme est capable de créer un monde, mais il est incapable d'imaginer le monde qu'il crée en quelque sorte. Il y a un deuxième décalage, qui est un décalage entre l'acte et le sentiment. Notre capacité de sentir, de ressentir, est une capacité limitée. Par exemple, nous pleurons un être cher disparu, nous pleurons des malheurs qui arrivent autour de nous. Maintenant, si nous allumons le bouton de notre télévision et que nous voyons des catastrophes planétaires, nous sommes émus, mais cela ne nous affecte pas avec la même profondeur, avec la même intensité que ce qui nous arrive près de nous. Et d'une certaine manière, c'est tant mieux, parce que si tout le malheur du monde nous affectait avec la même intensité, la vie serait invivable. Le problème est que, justement, cette capacité de sentir limitée, elle va cohabiter avec une capacité de faire quasi illimitée. Anders a cette formule, il dit « Nous pouvons assassiner des milliers de personnes, c'est la bombe atomique, nous pouvons nous représenter peut-être une dizaine de morts, ça c'est ce dont notre imagination est capable, mais tout au plus en pleurer ou nous repentir d'en avoir tué un seul. » C'est-à-dire que notre capacité de sentir est à la traîne, n'a pas la même extension que notre capacité de faire. Et ce qui vaut ici justement de la douleur, c'est-à-dire nous sommes capables de produire une douleur bien plus grande que celle que nous sommes capables d'éprouver en compatissant à la souffrance du monde. Et ce qui est vrai de la douleur, l'est aussi de l'angoisse, et c'est bien précisément ce sur quoi j'ai commencé, c'est-à-dire nous sommes capables de créer un monde extrêmement dangereux, mais nous ne sommes pas capables, ou si peu capables, d'éprouver une peur à la hauteur du danger que nous créons. Donc, deuxième décalage, qui est un décalage entre ce que nous sommes capables de faire et ce que nous sommes capables de sentir. Et parmi ces sentiments, il en est un qui occupe une place à part, qui c'est le sentiment moral, justement. C'est la capacité, notamment la capacité d'éprouver du remords. Hein, et donc, ça nous amène à un troisième décalage. Anders dit un décalage entre la science et la conscience, hein, vous connaissez la phrase « science sans conscience », c'est-à-dire que notre conscience morale est en retard par rapport à notre science et à notre capacité technologique. C'est exactement ce qu'il disait dans la phrase précédente en disant « mais tout au plus en pleurer ou nous repentir d'en avoir tué un seul ouais. ». Alors, cette situation, dit-il, transforme de manière radicale la nature des situations éthiques. Traditionnellement, un conflit moral, c'est un conflit de désir qui porte sur un même objet. Conflit, par exemple, entre la pulsion et la conscience morale. Voilà, je veux et je ne veux pas la même chose. Ça, c'est le conflit moral. Eh bien, la dissonance, le jeu, la déconnexion de nos facultés, la déconnexion entre notre sentir et notre faire, fait qu'il n'y a plus, en fait, que ce qui caractérise la situation morale contemporaine, n'est plus le conflit, mais la coexistence. Nous sommes capables de faire des choses sur lesquelles nous n'éprouvons pas de sentiment moral. Et le prototype, justement, de cette situation moderne, c'est le fonctionnaire des camps de la mort, c'est le fonctionnaire, bon père de famille, bon mari, mais qui collabore à une entreprise d'extermination de masse. L'autre exemple, et c'est pas par hasard que justement c'est l'exemple donc des camps de concentration, et le deuxième exemple, c'est le pilote qui a lâché la bombe sur Hiroshima. Anders a entretenu une correspondance avec lui, et ce pilote dit à quoi vous pensiez au moment où vous appuyez sur le bouton. Il dit: je pensais au frigo que j'allais pouvoir acheter à ma famille avec la prime que j'avais touchée. Et donc le fonctionnaire du camp de la mort ou le pilote de bombardier ne sont pas dénués de sens moral. Mais leur sens moral s'applique à la sphère privée, à la sphère de la famille, et n'opère plus à l'échelle du mal industriel dont la technique nous a rendus capables. Et on pouvait même aller plus loin en disant non seulement le sens moral et n'est pas à la hauteur, à la dimension de notre capacité de faire, mais il tend même à se réduire à proportion de notre capacité de faire. C'est-à-dire plus notre capacité de faire augmente, plus notre sens moral réduit. Pourquoi ? Pour la raison suivante, c'est que la technique, et ça c'est quelque chose par exemple que Ellul a très bien montré, la technique c'est pas seulement les machines. La technique, c'est la rationalité technicienne, elle s'applique à toute chose. Elle s'applique aussi à l'organisation du travail, et elle s'applique à l'organisation de la plupart des aspects de la vie sociale. Et donc, le corrélat du développement de la technique, c'est le développement de la technocratie, c'est-à-dire d'une organisation qui est elle-même gouvernée par l'impératif de l'efficacité technique. Et Anders nous dit, finalement, le travailleur prométhéen, il est devenu un collaborateur à l'intérieur d'une grande machine. Il est lui-même une pièce de la machine. Ça veut dire qu'il ne s'interroge... La question des fins de la machine est une question qui lui est étrangère. Il a cette formule absolument remarquable, et qui est une parodie de Marx. Vous voyez, le problème chez Marx, c'est que le travailleur n'est pas propriétaire des moyens de production. Et Anders dit, il n'est pas propriétaire des fins de la production. C'est-à-dire que je peux travailler dans une entreprise qui fabrique des prothèses médicales ou qui fabrique des bombes antipersonnelles, des mines antipersonnelles. Je peux travailler dans une entreprise agroalimentaire qui fait du bio ou qui fait de la malbouffe. Quelque part, c'est pas ma question. Ce qu'on demande, c'est effectivement d'être quelqu'un de compétent, un instrument adapté à une fin, mais une fin réputée moralement neutre. Une fin qui n'est pas interrogée. Or, précisément, justement, la moralité, c'est bien l'interrogation sur la fin. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, justement, dans l'analyse que fait Anders, la technocratie, qui est le corrélat de la technique, finalement, déresponsabilise en quelque sorte les individus en évacuant du champ de notre inspection, de notre regard, de notre questionnement, la question des fins. Alors, si, donc, la source, une des sources possibles de notre aveuglement, c'est justement ce décalage entre notre capacité de faire et d'autre part notre capacité d'imaginer, notre capacité de sentir et notre capacité de juger moralement, il faut que nous travaillions, c'est ça ce qui nous attend, au rapprochement. Enfin, il faut combler en quelque sorte cet écart. Alors, à mon avis, ça peut se faire de trois manières. La première, ça se fait malgré nous, c'est quand les conséquences de nos actes se rapprochent tellement de nous que nous ne pouvons plus les ignorer. Je crois que c'est ce qui se passe actuellement avec le réchauffement climatique. Si nous avons une conscience plus vive que celle que nous avions il y a 15 ans ou il y a 20 ans, c'est pas parce que nous sommes plus lucides que les autres, c'est parce que le vent du boulet passe de plus en plus près de nous, je pense. Voilà. Ça, c'est une première chose. La deuxième manière dont on peut rapprocher le sentir et le faire, ça serait dans une manière de s'abstenir de faire, c'est-à-dire de réduire notre capacité technique. Françoise Dumas citait le mot du père de Camus, un homme ça s'empêche. Je pense à Ellul. Ellul dit la puissance c'est la capacité de faire, l'impuissante c'est l'incapacité de faire, mais il y a un troisième terme qui est la non-puissance, c'est pouvoir faire et s'abstenir de faire. Mais pour s'abstenir de faire, il faut justement autre chose, et c'est là, à mon avis, le point justement que je finis, qui est le point, à mon avis, essentiel, c'est que pour rapprocher le sentir et le faire, il faut pratiquer ce que Anders appelle des exercices d'élongation morale, c'est-à-dire il faut étirer notre capacité de sentir de manière à la rapprocher de notre capacité de faire. Parce que sans ça, nous n'aurons jamais l'idée de limiter notre capacité de faire. Voilà. Et il me semble, de ce point de vue, que l'élément clé, c'est vraiment le premier, c'est-à-dire, j'ai dit, un décalage de l'imaginaire, un décalage du sentir, un décalage de la conscience morale. L'élément clé, c'est l'imaginaire. C'est-à-dire que nous n'arriverons pas à ressentir ce que nous ne sommes pas capables d'imaginer. Nous n'arriverons pas à éprouver une responsabilité morale par rapport à ce qui restera juste un squelette théorique. Et donc c'est pourquoi il me semble que les maîtres en élogation morale, les maîtres de gymnastique morale, ne sont pas les moralistes. Ce sont plutôt les poètes, ce sont les auteurs de fiction, ce sont les auteurs de science-fiction, ce sont les auteurs de cinéma, c'est-à-dire les gens qui ont ce talent, cette capacité à rendre visible, à rendre imaginable ce qui n'est pas là encore et ce qui n'est pas visible. Voilà. Et de ce point de vue, moi, je trouve que justement le rôle de l'imaginaire, tel qu'il existe dans la fiction, il est un peu l'équivalent de ce qui existe bibliquement chez le prophète d'Israël. C'est-à-dire le prophète qui annonce la catastrophe, c'est pas un devin qui voyant, c'est celui qui voit plus, qui voit mieux que les autres, et qui est capable de rendre visible, de rendre présent, pour que justement créer le sursaut de la conscience, la catastrophe possible, hein, l'apocalypse possible, pour reprendre le titre de l'article de Günther Anders. Donc il faut se mettre à l'écoute des prophètes et des auteurs de science-fiction.
Il y a des heures qui coulent autant que les rivières du Canada. On vit le corps cloué au temps et c'est le seul chemin qu'on a. Quand on est parti au large, alors qu'on voulait rester dans ces moments en marge. Dans nos heures désertées,
on sort du jeu, c'est toi qui conduis. J'ai mis un costume couleur nuit.
Il y avait des heures loin du temps qui nous mènent, des moments qui sonnent encore dans nos veines, pour s'évader de la prison des semaines, attends que l'idée nous. Autant que la flèche en plein cœur de cible. On vit le corps cloué au temps et c'est le seul chemin possible. Alors quand tout à la fois mes sirènes se déclenchent, je prends un train vers toi dès que mon bateau penche.
Allongé l'instant, je suis partant. J'ai mis ma veste couleur temps.
Je fais ça quand j'en ai marre de pourrir. Au lieu de fêter l'album des souvenirs. J'attends sur un quai que l'envie te reprenne de poser tes mains sur les miennes. Il y a nos heures que je vois comme des refuges immenses. C'est amusant combien parfois l'amitié ressemble à l'urgence. Quand on est parti au large, alors qu'on voulait rester. Dans ces moments en marge, dans nos heures désertées.
On sort du jeu, chemin de traverse. J'ai un manteau couleur d'averse.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus 103.2. Vous écoutez l'émission Dans nos communautés avec Christiane Hervault au micro. Et vous venez d'entendre une leçon, la leçon 18, donnée par Didier Travier lors de la Nuit de l'éthique du 17-18 juin 2023. L'an dernier, donc, nous avons eu cette joie d'avoir beaucoup d'intervenants et d'intervenantes pour toute une nuit de réflexion autour de l'éthique. Et puis vous avez entendu Louis Rodet dans un chant qu'il a donné, non pas cette nuit-là, mais une autre fois. Et donc voilà, mais notre émission se termine maintenant. Je vous souhaite une très bonne semaine à l'écoute de Radio Alliance Plus. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en DAB+ et sur notre site en podcast radioallianceplus.fr. Au revoir, bonne semaine.